Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Nous poursuivons et je poursuis cette série des clés pour vivre et c'est une quatrième rencontre avec le père Charles Bonin. Bonjour père Charles.
Bonjour Nathalie.
Alors merci de votre fidélité tout d'abord puisque vous passez la semaine en compagnie de tous nos auditeurs de toutes les radios chrétiennes. Alors le sujet est brûlant, il interpelle. Le titre de votre ouvrage, je le rappelle, faut-il se préparer à la fin des temps avec ce sous-titre, espérer à la lumière de l'évangile. Ce titre questionne, faut-il vraiment se préparer à la fin des temps? Alors pourquoi ce titre, Père Charles? Que nous dit-il? Et je dis bien pour nos auditeurs qui vous suivent et qui nous écoutent dans un temps où l'actualité est brûlante.
Oui, alors évidemment, il faut s'y préparer parce que de toute façon, c'est une certitude qu'un jour, notre temps finira et puis notre vie elle-même personnelle finira au jour de notre mort. Donc c'est une nécessité absolue pour chacun de s'y préparer. Et face à cette réalité ultime de notre vie, eh bien, le Seigneur Jésus nous donne dans l'évangile de Matthieu trois paraboles qui nous révèlent trois moyens très concret de s'y préparer. Il nous donne au chapitre 24 de l'évangile de Matthieu la parabole du majordome, celui que Dieu a établi sur tous ses camarades, tous les gens de sa maison pour leur donner la nourriture au temps voulu et qui nous invite à faire œuvre de charité, c'est-à-dire d'attention aux autres, de prendre soin jusqu'au retour du maître qui nous demandera de lui rendre des comptes sur la manière dont nous avons pris soin de notre frère. Ce qui fait écho à cette parole de la Genèse que Jésus adresse à Caïn qui vient de tuer son frère. Qu'as-tu fait de ton frère? Eh bien, cette parole nous sera adressée à la fin des temps et c'est même le critère du jugement dernier, puisqu'en Matthieu 25, eh bien, Jésus nous exhorte à ce critère du jugement. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Qu'as-tu fait à ton frère? Donc c'est la première attitude, c'est de demeurer dans une attitude de charité, de soin des autres, dans le don de soi, ce qui est fondamental. Notre vie, elle nous est donnée et les dons que nous avons reçus sont faits pour être donnés. Comment est-ce que je donne ma vie au service de mes frères et sœurs? C'est la première attitude qu'il nous faut avoir à l'exemple donc de ce majordome de l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Deuxième parabole de ce chapitre 24-25, c'est la parabole des talents. Qu'as-tu fait de ton talent? C'est la deuxième question qui nous sera posée. Je t'ai donné des talents pour que tu œuvres dans le monde, que tu demeures dans la foi, que tu proclames le bien et que tu dénonces le mal. Qu'as-tu fait de ton talent? Comment as-tu travaillé à la vigne du Seigneur en annonçant la foi, en demeurant fidèle à sa loi bonne qui nous est donnée pour conduire notre vie vers le bien? Qu'as-tu fait de tes talents? Donc c'est la deuxième parabole. Et puis la troisième parabole, nous la connaissons bien aussi, c'est la parabole des 10 vierges, au chapitre 25, encore une fois, de Matthieu, qui nous invite à demeurer dans cette attitude d'espérance, de veille attentive, à nous tenir sur la hauteur, en scrutant les signes des temps pour y adapter notre attitude, dans cette confiance, cette intériorité qui appelle de tout son cœur la venue du règne de notre Seigneur. C'est ce qu'on dit à chaque fois que l'on prie le Notre Père, que ton règne arrive. Et c'est la dernière parole de la Bible. Viens, oui, viens Seigneur Jésus. Donc comment est-ce qu'on appelle par toute notre attitude intérieure la venue de ce règne? Donc voilà comment il faut se préparer à la fin des temps, c'est-à-dire à cette réalité ultime de notre vie où nous paraîtrons devant notre Seigneur, que ça soit par notre propre mort ou à la fin du monde lorsqu'elle surviendra.
Alors dans ce temps, on est bien d'accord, Père Charles, c'est un temps de préparation à la fin des temps. C'est aussi un geste de miséricorde pour l'humanité que Dieu permet dans ce temps qui n'est peut-être pas encore la fin des temps. Expliquez-nous, éclairez-nous.
Alors ce temps de la fin des temps, en fait, il est aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit dans un précédent entretien, la parole de Dieu, elle est actuelle, elle est pour nous aujourd'hui, ici, là où nous sommes, d'une manière très concrète. Et elle n'est pas une projection vers l'avenir, elle est une attitude intérieure de préparation, où on est finalement toujours prêt à recevoir notre Seigneur lorsqu'il viendra.
Alors, cette époque, ce temps que nous traversons, qui semble donner aussi des signes d'une apostasie, est-il aussi un temps, puisqu'on parle du temps, de purification, un peu de l'humanité et purification collective et individuelle pour chaque être humain. Ben, éclairez-nous.
Oui, toutes les crises que nous traversons, le mal que nous subissons parfois ou que nous commettons aussi est là pour nous rappeler que nous avons à nous convertir et à purifier notre cœur pour nous ouvrir à cette réalité de la présence de Dieu. Quand je dis que la parole de Dieu, elle est toujours actuelle, c'est qu'elle nous met en présence de celui qui est toujours présent à notre humanité, le Christ qui est venu la rejoindre dans toutes ses difficultés et qui nous invite à lutter finalement contre trois attitudes négatives qui sont finalement les figures de l'Antichrist qui agit et qui agit parfois en nous, de l'intérieur, hein, et je nomme ces trois attitudes en particulier dans ce livre, hein, que sont l'idéalisme, c'est-à-dire je mets mon idée au-dessus du réel, hein, qui va conduire finalement à une attitude d'orgueil, d'insubordination, ou d'indifférentisme religieux et de relativisme. Voilà, parce que je mets mon idée au-dessus du réel. Donc la première attitude contre laquelle il faut se prémunir, c'est cet idéalisme, cet orgueil qui est toujours présent au milieu de nous. Deuxième attitude, c'est le perfectionnisme, où là c'est l'avoir qui devient supérieur à l'être. Je cherche à avoir toujours plus, à dominer. Je cherche d'abord et avant tout la jouissance égoïste et ça conduit finalement au matérialisme, où je cherche toujours mieux, toujours plus. Donc première attitude, l'idéalisme, deuxième attitude, le perfectionnisme, troisième attitude, le volontarisme, qui est une forme de vanité, hein, de volonté de puissance, où là c'est moi qui devient supérieur aux autres. Hein, c'est l'exaltation du moi qui conduit à une forme d'individualisme au mépris des autres. Eh bien ces trois attitudes, nous sommes invités à les purifier, à les convertir, à les regarder face à face pour laisser la grâce de Dieu nous en libérer et nous permettre de l'accueillir.
Alors, les crises ou ces multitudes de crises que nous pouvons traverser, sont-elles des moments un peu de vérité, de vérification de notre foi, Père Charles ?
Mais tout à fait, c'est le sens même étymologique de la crise qui est un climax, un moment un peu paroxystique où le mal va se révéler pour qu'on en ait davantage conscience, qu'on puisse s'en saisir et lutter contre lui et se tourner en revanche vers le bien. Donc, tout à fait.
Donc vous avez parlé de grâce. Au fond, ces périodes de crise, d'épreuve, peuvent-elles être lues comme aussi, paradoxalement, des temps de grâce ?
Oui, absolument. Mais je pense que la crise, par exemple, que l'Église a traversée et continue de traverser, oui, malheureusement, avec les abus, nous invite à cette purification et sont presque une miséricorde de Dieu. Alors, le mal n'est pas voulu par Dieu, mais Dieu va permettre que dans le mal, eh bien, puisse surgir un plus grand bien. Il ne veut pas le mal, mais le mal qui est dans notre monde, eh bien, nous invite à nous retourner vers lui qui est la source du bien. La source du bien, elle n'est pas en nous, elle est d'abord en Dieu, mais Dieu qui est lui-même en nous et qui nous invite, eh bien, à nous convertir, à nous tourner vers ce bien qu'il est lui-même. Et lorsqu'on est parfois appauvri par ce mal qui nous blesse, eh bien, on est dans cette attitude du pauvre qui se rend disponible à l'œuvre de la grâce. Et je crois que c'est vrai pour nous, c'est vrai aussi pour l'Église qui est marquée par cette crise des abus et qui finalement, eh bien, est conduite à se purifier, à descendre d'une forme de piédestal idéaliste et à revenir à cette pureté de l'Évangile pour s'ouvrir à la grâce. Et les catéchumènes qui affluent dans nos paroisses, eh bien, sont le signe de cet effet de la grâce. Hein. Ils ne viennent pas parce que nous, humains, les avons appelés, mais parce que Dieu les a envoyés. Et à nous de le recevoir avec cette humilité qui est une disposition à l'œuvre de Dieu.
Oui, ils arrivent aussi une multitude de catéchumènes. On peut se réjouir aussi de tous ces hommes, de toutes ces femmes, de tous ces jeunes aussi qui demandent de devenir chrétiens et demandent le baptême. Dans une église, vous l'avez souligné, qui est une église aujourd'hui plus pauvre, avec ces nombreux scandales que vous avez nommés, est-ce que l'Église devait vivre un peu cette passion, finalement, cette humiliation pour devenir plus pauvre et au fond permettez-moi de venir peut-être plus à l'image du Christ, vrai missionnaire dans la pauvreté.
Oui, sans doute, parce qu'en devenant plus pauvre, on devient plus vrai. Le pauvre ne triche pas, il est dans la vérité de sa nature humaine. Et effectivement, eh bien, c'est ce que le Christ nous annonce par sa passion et par sa croix, où il est descendu dans cette kénose, cette descente, cet affaiblissement du Christ qui n'avait plus figure humaine, comme dit le prophète Isaïe, et qui va par là même porter toutes nos infirmités. Quand on est plus pauvre, on est plus vrai, et chacun de nous et l'Église elle-même suivra la passion de notre Seigneur pour participer à sa résurrection. C'est le chemin de l'Église, c'est le chemin de toute personne.
Merci infiniment pour cet entretien, Père Charles Bonin. Je vous propose de vous retrouver, ça sera la dernière rencontre de cette série, avec cet ouvrage, et puis c'était le thème un peu de tous ces entretiens, se préparer à la fin des temps, et au fond, dans cette préparation de la fin des temps, c'est se préparer collectivement, mais surtout individuellement, et on parle bien d'un chemin aussi en vue d'un royaume, et en vue aussi de cette conversion personnelle. Donc, en route, mettons-nous debout. À demain et merci.
Merci.